Chapitre 72. Le premier soin, nous dirons presque le premier devoir de César, en arrivant en Égypte, fut de recueillir les cendres de Pompée et d'envoyer à Cornélie l'urne qui les contenait. Cornélie les déposa dans cette belle maison d'Albe dont plusieurs fois nous avons eu l'occasion de parler. César avait frappé du pied la terre à l'endroit où était tombée Pompée et il avait dit « Je bâtirai ici un temple à l'indignation ». Et plus tard, en effet, ce temple fut bâti. Appien le vit et raconte que l'empereur Trajan, faisant la guerre aux Juifs en Égypte, ceux-ci l'abattirent parce qu'il les gênait. Cependant, César était assez embarrassé. Il avait donné rendez-vous à plusieurs vaisseaux à Alexandrie. De notre côté, les vents éthésiens le retenaient et il avait grande envie de prendre sa belle et de faire mourir les trois meurtriers de Pompée, Potin, Achillas et le sophiste Théodote. Puis, disons-le, il avait fort entendu vanter la beauté de Cléopâtre, et César était fort curieux de ces sortes de prodiges. Cléopâtre avait alors 17 ans. 2 ans auparavant, ce même Ptolémée Olétès, le joueur de flûte, que nous avons vu venir à Rome pour y implorer la protection de Pompée, était mort. Il avait laissé un testament en double. Un duplicata avait été envoyé à Pompée à Rome, l'autre était resté dans les archives d'Alexandrie. Par ce testament, le vieux roi laissait le trône à son fils et à sa fille aînée, Cléopâtre et Ptolémée, qui, outre qu'ils étaient frères et sœurs, étaient époux. Ptolémée n'avait alors que 15 ans. Le testateur invitait Pompée à veiller, au nom du peuple romain, à ce que son testament fût exécuté. Or, depuis un an, le pouvoir de Pompée était passé aux mains de César. De plus, comme nous l'avons vu, Pompée venait d'être assassiné par ce même Ptolémée dont il était chargé de soutenir les droits. Il y avait encore un autre frère, âgé de 11 ans, et une autre sœur, nommée Arsinoé, âgée de 16 ans, au moment où César entra dans Alexandrie. Celui-ci fit inviter Cléopâtre et Ptolémée, qui avaient chacun une armée, à licencier leurs troupes et à venir plaider leur procès devant lui. En signe de ses bonnes dispositions en faveur des deux jeunes princes, César, créancier du roi mort pour une somme de 17 500 000 drachmes, César, disons-nous, leur faisait remise de 7 millions. Seulement, il déclarait avoir besoin des 10 500 000 drachmes restants et exigeait qu'ils lui fussent payés. César attendait l'effet de l'invitation faite à Ptolémée et à Cléopâtre quand on lui annonça qu'un homme demandait à lui faire hommage d'un tapis comme il prétendait que César n'en avait jamais vu. César ordonna de faire entrer l'homme qui demandait à lui parler. Il entra effectivement, portant sur son épaule un tapis qu'il déposa au pied de César. Ce tapis était serré par une courroie. L'homme desserra la courroie, le tapis se déroula de lui-même, et César en vit sortir une femme. C'était Cléopâtre. Connaissant son pouvoir, qu'elle avait déjà exercé particulièrement sur le jeune Sextus Pompée, elle s'était, aussitôt qu'elle avait appris la convocation de César, jetée dans un bateau avec le seul Apollodore de Sicile qu'elle tenait pour son meilleur ami, et elle était arrivée vers les 9 heures du soir en face du palais. Mais n'espérant pas y entrer sans être reconnue, elle avait dit à Apollodore de la rouler dans un tapis et de la porter ainsi à César. Ce tour de grisette enchanta le vainqueur de Pharsale. Cléopâtre n'était pas précisément belle. Elle était mieux que cela, elle était charmante. Sa taille était petite, mais admirablement prise. Il ne fallait pas qu'elle fût bien grande, en effet, pour tenir dans un tapis roulé. Elle était toute grâce, toute coquetterie, tout esprit. Elle parlait le latin, le grec, l'égyptien, les langues de la Syrie et de l'Asie. Elle tenait de l'Orient des habitudes de magnificence qui liaient ceux qui la voyaient avec des chaînes d'or et de diamants. C'était enfin la réalisation de la fable de la sirène. Il faut croire qu'elle ne fit pas languir César, car lorsque le lendemain Ptolémée arriva, il s'aperçut, dit Dion Cassius, à certaines privautés de César avec sa sœur, que sa cause était perdue. Cependant, le jeune renard rusa. Il fit semblant de ne rien voir. Mais au premier moment propice, il disparut, quitta le palais et se prit à courir par les rues d'Alexandrie en disant qu'il était trahi. Au cri du jeune roi, le peuple prit les armes. De son côté, Potin expédia un messager à Achillas qui commandait l'armée de Péluse en l'invitant à marcher sur Alexandrie. L'armée égyptienne était de 25 000 hommes, non pas égyptiens. C'eût été une plaisanterie pour César qu'une pareille armée. Mais elle était composée des débris de celle de Gabinius, c'est-à-dire de vétérans romains qui s'étaient accoutumés à cette vie licencieuse d'Alexandrie, qui s'y étaient mariés et qui, en conservant la valeur des Romains, y avaient pris les habitudes de l'Orient. De pirates de la Cilicie restent de ceux-là qu'avait dispersé Pompée, enfin de fugitives et de bannis. César, en entendant ces cris de mort poussés contre lui, en comptant ses 3 200 soldats, comprit que la situation était grave. Il envoya à Achillas deux ex-ministres du feu roi, deux anciens ambassadeurs à Rome. On les nommait Sérapion et Dioscoride. Aquila, avant qu'ils eussent ouvert la bouche, les fit massacrer. C'était, comme on le voit, une déclaration de guerre en règle à César. César l'accepta. Il avait contre lui Achillas et ses 25 000 hommes. Mais il avait pour lui cet allié puissant qu'on appelle l'amour. Puis, à tout hasard, il avait mis la main sur le petit roi Ptolémée et sur l'eunuque Potin. César commença par concentrer ses troupes et se retira avec Cléopâtre dans ce que l'on appelait le palais royal. Un théâtre attenait au palais, César en fit sa citadelle. Au fur et à mesure que César se retirait, les troupes d'Aquila s'avançaient dans la ville. Mais il y eut un point où les troupes de César cessèrent de reculer. Alors on combattit. Aquila essaya de forcer le palais et donna plusieurs assauts. Mais partout il fut repoussé. Il essaya de s'emparer des galères de César. César en avait 50. C'étaient des bâtiments pris sur la flotte de Pompée, à 3 et 5 rangs de rames, parfaitement équipés. 22 autres gardaient, en outre, le Havre. Or, en se rendant maître de ces vaisseaux, les Égyptiens tenaient César prisonnier, interceptaient le port et la mer et lui retranchaient les vivres. Chacun se battit donc de son mieux. Les soldats d'Aquilas, en hommes qui sentent l'importance de la position qu'ils veulent prendre, les soldats de César, en hommes qui savent que leur vie dépend de leur courage. Les attaques d'Aquilas furent repoussées de tous côtés. Alors César, voyant qu'avec le peu de force qu'il avait, il ne pouvait conserver ses galères, les brûla toutes, jusqu'à celles qui étaient dans l'arsenal. Puis, en même temps, il débarqua des troupes au phare. Ce phare était une tour d'une merveilleuse hauteur qui donnait son nom à l'île sur laquelle il était bâti. Cette île était jointe à la ville d'un côté par une jetée de 900 pas, bâtie par les rois précédents, avec un pont à chaque bout. Elle avait un faubourg qui était à lui seul de la grandeur d'une ville. Ce faubourg était habité par une population de bandits et de pirates, courant sus à tous les vaisseaux égarés. La tour du phare avait cette importance immense que le port étant excessivement étroit, on ne pouvait y entrer que sous le bon plaisir de ceux qui habitaient la tour. Au reste, au bout de 3 jours, César avait achevé un de ces prodigieux ouvrages de fortification dont il avait l'habitude. Il avait relié par des murailles toute la circonvallation de la ville qu'il occupait. Par le théâtre, il communiquait avec le port et l'arsenal. De leur côté, les Égyptiens avaient bloqué César en fermant toutes les rues et tous les carrefours avec des murailles de 40 pieds de haut, bâties de gigantesques quartiers de pierre. Puis, dans les lieux bas, ils avaient élevé des tours de 2 étages, les unes incrustées dans le sol, les autres se mouvant sur des roues et pouvant se traîner partout où il était besoin. Sur ces entrefaites, César jouait son rôle de conciliateur. Le jeune Ptolémée, enfant rusé et venimeux, avait fait semblant, sur les instances de César, de se raccommoder avec sa sœur et avait consenti à partager le trône avec elle. César, au milieu de toute cette lutte contre Alexandrie, donna un grand festin pour célébrer la réconciliation. Au milieu du repas, un de ses esclaves qui lui servait de barbier et qui était l'homme du monde le plus timide et le plus soupçonneux, vint lui parler bas à l'oreille. 5 minutes après, César sortit. Le barbier l'attendait dans le corridor. Tout en courant le palais, tout en furetant, tout en écoutant, le barbier avait entendu des voix qui parlaient tout bas. Il s'était approché et avait surpris un complot d'assassinat qui se tramait entre Potin et les envoyés d'Aquilas. César avait toute confiance dans celui qui dénonçait ce complot. « C'est bien, dit-il, il y avait longtemps que j'attendais une occasion de venger le meurtre de Pompée. La voici venue, je ne la laisserai pas échapper. Que l'on tue Potin !» Il vit partir les hommes chargés d'exécuter cet ordre et rentra en souriant dans la salle du festin où il reprit sa place près de Cléopâtre. Un instant après, un centurion entra et lui dit tout bas « C'est fait !» César fit un signe de tête indiquant qu'il était satisfait et le centurion se retira. Le même soir, Ptolémée sut la mort de son confident, mais au lieu d'avoir l'air de le regretter, il félicita César d'avoir échappé au danger dont le menaçait la trahison de ses serviteurs. Cette mort, au reste, causa une telle épouvante parmi ceux qui eussent eu envie de conspirer contre César, que la jeune sœur de Cléopâtre, Arsinoé, s'enfuit la nuit suivante et passa au parti d'Achillas avec son gouverneur Ganymède. Elle avait un espoir, c'est que, sa sœur Cléopâtre étant la maîtresse de César et son frère Ptolémée en étant le prisonnier, elle se ferait déclarer reine. Et en effet, les troupes l'accueillirent avec de grandes acclamations. Mais bientôt, la discorde se mit entre elle et Achillas. Ce que voyant Arsinoé, elle fit assassiner Achillas par Ganymède. Celui-ci reprit le commandement, échappé aux mains d'Achillas, répandit, au nom de sa jeune maîtresse, de grandes sommes d'argent dans l'armée, et se chargea de continuer cette dangereuse tâche d'une lutte contre César. C'était le second meurtrier de Pompée qui expiait son meurtre. Finissons-en tout de suite avec ces odieux personnages. Quant à Théodote le sophiste, après être parvenu à se dérober à la justice de César, il s'enfuit d'Égypte et erra longtemps misérable et détesté. Mais, après la mort de César, Marcus Brutus, étant rendu maître de l'Asie, découvrit la retraite où se cachait Théodote et, étant parvenu à s'en emparer, le fit mettre en croix. Nous verrons plus tard que les meurtriers de César finirent tous à peu près aussi malheureusement que ceux de Pompée. Si Pompée, qui niait la providence à Mytilène, eût pu voir la mort de Potin, d'Achillas et de Théodote, il n'eût plus douté.